Très heureux de vous retrouver sur Présence dans notre partie d'Occitanie. Il est midi, à bientôt le week-end, et pour vous aider à passer cette ligne droite, de très belles émissions comme d'habitude avec l'interview d'Isabelle Honnel. Elle reçoit Pascal Le Bellet, docteur en histoire des sciences. Il nous offre une plongée dans la vie du 18e siècle avec un éclairage étonnant sur la crise sanitaire actuelle. À ne surtout pas louper, c'est dans moins de 5 minutes. Emmanuel Pella n'est pas parti en week-end et il vous offre tout ce qu'il a noté dans son agenda dans Église Actualité, c'est dans 20 minutes. Ensuite, nous irons faire le tour des diocèses, la dernière émission de la semaine, et on va se promener dans le Tarn-et-Garonne. Ça sera avant la demi-heure. Marie-Pierre Pavlak en fin d'heure pour la revue de presse. Mais juste avant, l'essentiel de l'actualité avec Luc Vidal-Giraud.
Deux nouveaux départements de notre région placés en zone rouge, le Tarn et l'Aveyron, rejoignent la liste des départements d'Occitanie où la circulation du virus s'accélère et est considérée comme active. L'Occitanie en compte désormais 8, ayant basculé dans cette zone rouge, le Tarn, l'Aveyron, le Tarn-et-Garonne, la Haute-Garonne, les Pyrénées-Orientales, l'Aude, l'Hérault et le Gard. Les évolutions varient d'un département à l'autre et au sein même des départements. En Haute-Garonne, la préfecture alerte sur une évolution défavorable des taux d'incidence, 144 pour 100 000 et 225 pour 100 000 à Toulouse. De nouvelles mesures vont être annoncées au cours de la journée par le préfet. La Banque de France vient de dévoiler son bulletin de conjoncture économique pour le mois d'août. En Occitanie, la production industrielle et les courants d'affaires des services marchands ont augmenté plus fortement qu'en juillet dans la majorité des secteurs, hormis l'aéronautique. Toutefois, sans retrouver les niveaux d'avant-crise. En matière de météo, les jours se suivent et se ressemblent. Pas de précipitations depuis belle lurette et des records de chaleur qui tombent jour après jour. Il n'a jamais fait aussi chaud à Toulouse un 17 septembre. 35 degrés hier au compteur. Le précédent record datait de 1987. Le parquet de Toulouse bloque la reprise de BVA par Alcentra. Le parquet vient en effet d'interjeter appel à la décision du tribunal de commerce de nommer le fonds de dette anglais Alcentra comme le repreneur de BVA et de ses 1800 salariés, dont 500 sont basés à Toulouse. On reste dans le domaine judiciaire avec la condamnation hier du maire de Gaillac dans le Tarn. Patrice Gosseran écope de 10 mois d'emprisonnement avec sursis, 20 000 euros d'amende et 5 ans d'inéligibilité pour prise illégale d'intérêt et corruption passive. C'est ce week-end les journées du patrimoine. Pour les célébrer, Emmanuel Macron était dans le Gers ce matin. Objectif de la visite, découvrir le chantier de rénovation qui s'achève à l'hôtel de Polignac, l'un des tout premiers monuments historiques à avoir bénéficié du loto du patrimoine lancé en 2018. Et puis au niveau régional, les propositions de visite pour ces journées sont multiples. Un tuyau pour faire son choix, et bien le site internet de France 3 Occitanie propose un récapitulatif exhaustif avec une carte interactive compilant toutes les manifestations département par département. Et puis en rugby, les Coupes d'Europe interrompues au printemps dernier en raison de la crise sanitaire reprennent ce week-end avec les quarts de finale. Dans la Champions Cup, le stade toulousain reçoit les Irlandais de l'Ulster. C'est dimanche à Ernest Vallon. Pour le compte de la Challenge Cup, Castres se déplace chez les Anglais des Tigres de Leicester.
Merci Luc, on vous retrouve dans une demi-heure pour les titres.
La météo.
Pour cet après-midi, vous aurez une moyenne dans notre partie d'Occitanie de 30 degrés. Demain matin, après le beau temps, la pluie, des risques d'orage. Près de la cathédrale de Cahors, vous aurez du 19 degrés ainsi que dans le Gers. Un petit 17 pour Lourdes, autrement de rares averses. Pour Toulouse et Montauban, où le mercure montera jusqu'à 21 degrés. Pour l'après-midi, le ciel va gronder pour tout le monde. Ce sera quasiment la même température dans les différents départements, comme par exemple 26 degrés. Tout près du musée Champollion à Figeac, dans le Tarn-et-Garonne, la Haute-Garonne et le Gers. Pour dimanche après-midi, les températures seront en chute libre. Oui, avec de moyenne du 23 degrés. Vous aurez de rares averses.
Présence dans la vallée de la Rance, 93.1.
Et alors, rien à voir avec le coronavirus, hein. Encore que l'épidémie dont il est question ce matin avec mon invité, c'est une épizootie, c'est une épidémie qui concerne les animaux, les bœufs en l'occurrence. La scène se passe dans le sud-ouest, le Béarn et le Pays Basque. Plus exactement, nous sommes fin 18e. L'histoire est vraie, elle donnera lieu à la création de la Société Royale de Médecine. Toute cette affaire est retracée dans un roman. Son auteur est en ligne avec nous. Bonjour Pascal Le Bellet.
Bonjour.
Le temps des foudres, un livre qu'on trouve chez Publishroom. C'est une somme, hein, ce livre, 500 pages, qui reprend, m'avez-vous dit, des éléments de votre thèse. Mais vous l'avez écrit comme un roman, c'est presque un polar d'ailleurs, hein. Ça tombe bien, je crois que votre mari est gendarme. On va le parcourir ensemble, hein. On parle d'une épizoutie, vous allez nous planter le décor, hein. Quelle ampleur cette épizoutie, quelles conséquences? Dites-nous tout ça, Pascal.
Eh bien, en fait, c'est une épizootie de peste bovine. Alors, la peste bovine, c'est une maladie dramatique pour les bovins. Elle est extrêmement contagieuse et elle a été éradiquée en 2011. Vous voyez, c'est récent. Et jusqu'à son éradication, il n'y a pas de traitement. Donc, au XVIIIe siècle, il n'y en avait pas non plus. Donc, en 1772, des bêtes en provenance de Hollande ont été débarquées à Bayonne, porteuses de ce terrible fléau. Cette maladie étant contagieuse, elle s'est répandue dans tout le Pays Basque et le Béarn et a été responsable de la perte de 150 000 bovins, ce qui était absolument énorme. Et évidemment, cette crise sanitaire a eu comme conséquence une crise économique, une crise sociale, parce que, évidemment, plus de travaux agricoles, plus de tanneries... et vraiment des conséquences très dures. Et dans le roman, ce que j'ai voulu montrer, c'était des conséquences pour toute la population. Et ça va d'un cagot, qui est un personnage...
Ah oui, on apprend ce que c'est qu'un cagot. Il va falloir nous dire ce que c'est. Hein.
Oui, alors un cagot, c'est assez typique du Pays Basque et aussi du Béarn. C'était des personnes que l'on disait être descendants de lépreux et qui étaient vraiment mis au banc de la société. Ils n'avaient pas le droit de posséder terre. À l'église, ils avaient une entrée à part. On leur cousait sur leurs vêtements une petite marque avec une patte d'oie rouge. Ils n'avaient le droit de se marier qu'entre eux, et c'était vraiment le bas de la hiérarchie sociale. Donc on part du cagot et on va jusqu'à Louis XVI. Donc c'est pour vous dire, c'est pour voir toutes les conséquences de cet épisode-ci. Et au niveau du Pays Basque et du Béarn, ça va de ce cagot, mais aussi j'ai voulu absolument qu'il y ait des femmes.
Donc j'ai inventé des personnages. Parce que...
Et oui, parce que malheureusement, dans l'histoire avec un grand H, il y a peu de femmes. Et c'est quand même la moitié de la population. Donc moi, j'ai voulu absolument mettre en avant des femmes. Donc on a Clarinotte, effectivement, qui est une éleveuse de bestiaux. On a Liloy, qui est la fille d'un chirurgien. Et on a donc plus tard Marie-Antoinette, on a Madame Lavoisier, on a un certain nombre de personnages.
Oui. Alors il y en a beaucoup des personnages, mais on s'y perd pas. Hein. Vous nous tenez en haleine. Hein. Vous m'avez emmené jusqu'à sur la plage. Hein. J'ai lu votre roman. Je le dis à ceux qui nous écoutent. Hein, c'est une vraie plongée dans la vie quotidienne du XVIIIe siècle, celle des champs et celle de la ville. Hein, vous l'avez dit, puisqu'on arrive jusqu'à la cour de Louis XVI, puisque des émissaires, hein, vont être envoyés à Paris pour faire état de la situation dramatique dans le Sud-Ouest. Vous l'avez dit, 150 000 bovins sont morts. Il y en a qui ont été confinés, tiens, des bovins. Louis XVI, ça l'a intéressé, cette affaire. Je crois qu'il était en pleine révolte des farines à ce moment-là. Comment il a géré la situation?
Alors, Louis XVI devient roi en 1774, au plus fort de l'épizootie, et il est complètement désemparé, parce que qu'est-ce qu'on peut faire contre cette maladie qui a autant de conséquences? Et il a un contrôleur général des finances, Turgot, qui est, alors c'est un peu technique, mais les physiocrates. Alors la physiocratie, c'est très important au XVIIIe siècle, c'est la théorie économique dominante qui met au cœur de l'action, au cœur de la richesse de la nation, l'agriculture et l'élevage. Donc il y a vraiment, au niveau du gouvernement, une volonté très forte de faire quelque chose. Mais ils sont désemparés, qu'est-ce qu'on fait? Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'adressent aux scientifiques, et à l'époque... L'instance scientifique qui existe toujours et qui est toujours très importante, c'est l'Académie des sciences. L'Académie des sciences, alors, se saisit du problème, ils délibèrent, ils discutent entre experts, une espèce de commission scientifique finalement, et ils décident d'envoyer sur place un jeune médecin très talentueux, un jeune normand de Valognes qui s'appelle Félix Vic d'Azyr. Félix Vic d'Azyr va sur place et met en œuvre des mesures que le gouvernement avait hésité. Ce que j'ai voulu montrer aussi dans le livre, c'est essayer de se mettre un peu dans la tête des gouvernants, les mesures qu'il fallait prendre et qu'ils ont un peu tardé à prendre, ce qui a aggravé la crise. Eh bien, c'était, comme vous l'avez dit, le confinement des bestiaux, l'interdiction des foires et des marchés, l'interdiction de les emmener en pâture, et puis même jusqu'à l'abattage des bêtes malades, mais également de leurs troupeaux. C'était très difficile à prendre comme mesure, mais c'est ces mesures qui permettront, au début du XXIe siècle, d'éradiquer la maladie. Il n'y a toujours pas d'autre solution. Donc, Louis XVI, vraiment, a eu un rôle majeur. Ce que j'ai voulu montrer aussi dans le livre, c'est que, même si ce n'est pas le personnage central, bien sûr, du livre, mais c'est que Louis XVI n'est pas toujours, dans l'esprit des gens...
Le bonnet.
Il n'a pas toujours sa... Oui, ce n'est pas du tout un homme qui est un ballot. Il a du caractère et il est très intelligent. Après, c'est quelqu'un qui veut bien faire. On ne peut pas lui enlever ça. Moi, je suis une républicaine très convaincue, mais on ne peut pas non plus enlever le fait que Louis XVI était quelqu'un de bien.
Alors, Vic d'Azyr, hein, Félix Vic d'Azyr, vous nous l'avez dit, va être envoyé dans le Pays Basque et dans le Béarn, va faire toutes ses constatations et prendre ses mesures. Et puis donc, la réponse des autorités à cette crise, ça sera la création de la Société Royale de Médecine. Ça n'a pas été sans peine, les médecins ne sont pas toujours d'accord. Là aussi, ça nous rappelle quelque chose. Qu'est-ce que c'est cette Société Royale de Médecine alors ?
Eh bien, lorsque Vic d'Azyr s'est rendu sur place, il s'est rendu compte que les praticiens étaient finalement assez isolés les uns des autres. Les scientifiques étaient isolés. Donc, quand il est revenu, avec l'aide d'un certain nombre de personnages, dont Turgot, dont tout un tas d'autres, et le soutien de Louis XVI, ils ont créé la Société Royale de Médecine. Alors, qu'est-ce que c'est ? Certains de vos auditeurs ont peut-être entendu parler de nos institutions actuelles qui sont bien sûr l'Académie de médecine mais aussi la NSM, hein, l'Agence de sécurité des prédits de santé, France Santé Publique. Eh bien, c'est la même chose sauf en une seule structure, la Société Royale de Médecine, qui avait comme but de lutter contre les épidémies et les épizooties, qui lançait des appels d'offres. C'est ce que fait l'Agence nationale de la recherche à notre époque, c'est-à-dire ils appelaient ça des prix, et puis pour labelliser les remèdes. Alors, labelliser les remèdes, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'autorisation de mise sur le marché, c'est-à-dire que des gens inventaient ce qu'on appelait à l'époque des remèdes secrets, mais pour que tout le monde puisse les acheter dans des conditions de sécurité optimales.
Je vous coupe, on le voit dans votre livre, hein, il y a des personnes qui profitent de la crise, qui profitent de la misère, il y a des faux remèdes, il y a ce personnage sombre, Lafitte, hein, qui vient toujours profiter de la misère.
Oui, alors c'est ce que j'ai voulu montrer aussi, c'est que finalement, c'était l'ensemble les conséquences sur l'ensemble de la population. Donc il y a des histoires d'amour, d'amitié, de trahison, d'escroquerie, de meurtre, mais aussi des espoirs. Parce que c'est la vraie vie et que finalement tous ces événements, cette crise sanitaire, les querelles entre médecins sur les remèdes qu'il faut prendre, les conflits de pouvoir, d'ego, etc., et jusqu'à la révolution, tout ça est vécu de façon immersive. C'est vraiment l'idée de montrer comment tout ça se met en place et comment c'est difficile, aussi bien pour les gouvernements de prendre des décisions que pour la population de les subir.
Alors, Pascal Le Bellay, hein, je rappelle à ceux qui nous rejoindraient, hein, que vous êtes docteur en histoire des sciences, vous avez écrit un livre donc très, très étayé, documenté, il s'intitule « Le temps des foudres », on le trouve chez Publishroom, on en parle ensemble en ce moment. Ce livre, Pascal Le Bellay, vous l'avez écrit bien avant que ne survienne la crise de la Covid-19. Est-ce qu'on ne pourrait pas tout de même y voir une certaine forme de résonance ?
Oui, vous avez raison, c'est vrai que lorsqu'il est sorti, c'était le début de la crise du coronavirus, et bien sûr, il avait écrit avant. Eh bien, les résonances, c'est une crise sanitaire que personne ne comprend, personne ne sait quoi faire, un gouvernement désemparé qui hésite à prendre des mesures parce qu'elles sont très difficiles dans leurs conséquences, des scientifiques qui ne sont pas d'accord entre eux, et des gens qui subissent des décisions difficiles, qui ne les comprennent pas toujours, qui ne veulent pas toujours les appliquer, et un certain nombre de fraudes qui se font jour et qui rajoutent du malheur au malheur.
Et je rajouterais les médecins qui s'écharpent, l'orgueil qui s'en mêle, toutes ces choses qu'on peut retrouver aujourd'hui. Qu'est-ce que ça évoque pour vous tout ça là ?
Ben, si vous voulez, ce que je me dis, c'est que le passé n'est pas un réservoir de solutions pour le présent. Mais à se priver de la connaissance de ce qui s'est passé avant, on s'ampute finalement d'une expérience, ils n'étaient pas plus bêtes que nous. Et il ne semble que quand il s'agit de l'être humain, de sa santé, de son bien-être, c'est dommage de se priver de tout ce qui peut enrichir la réflexion des contemporains. C'est ça l'idée, c'est de se dire c'est quand même dommage de ne pas utiliser, sans penser pour autant qu'il y aura des solutions, mais de profiter des réflexions des autres. On le fait bien pour tout ce qui est économie et philosophie, c'est dommage qu'on ne fasse pas dans le domaine de la santé.
Alors faisons-le, là. Qu'est-ce qu'on pourrait profiter, de quoi pourrait-on tirer profit de l'expérience de cet épisode du 18e ?
Eh bien, déjà, de ne pas tarder à prendre les mesures préconisées, même si elles sont difficiles. Et ça, c'est facile à dire, beaucoup plus difficile à faire. Et puis, tout faire pour lutter contre les fraudes, les escroqueries, et être conscient que les mesures, aussi bienveillantes soient-elles, il y aura toujours des gens pour essayer de les contourner. Et le malheur des crises sanitaires est quand même très aggravé par les fraudeurs. Ça, je pense que c'est quelque chose dont il faut être conscient. Il faut être conscient aussi que les mesures sont difficiles à prendre et qu'il faut tenir le cap. Je pense que c'est ça. Il faut tenir le cap et c'est compliqué. C'est compliqué pour le gouvernement de savoir qui a raison dans les scientifiques, et c'est pour ça que la mise en place de commissions et ne pas laisser une seule personne donner son avis me semble important. Ce doit être des décisions collégiales.
Qu'est-ce qu'elle est devenue, la Société Royale de Médecine ?
Eh bien, elle a très bien fonctionné, avec des procédures très très rigoureuses, mais il y a eu la Révolution française et qui, lors de la Convention en 1793, a décidé la suppression des académies et des sociétés savantes. Donc, comme l'Académie des sciences, la Société Royale de Médecine a été dissoute. Et puis, Félix Zygdazyr est décédé pendant la Terreur en 1994, alors pas par la guillotine, mais il est décédé. Et c'était vraiment l'âme de la Société Royale de Médecine. Donc finalement, si l'Académie des sciences a pu renaître plus tôt, la Société Royale de Médecine, je dirais, a renaître ses cendres en décembre 1820, ça fait, on fête l'anniversaire, sous forme d'Académie de médecine.
Eh bien, on terminera là-dessus. Un immense merci, Pascal Lebellet. C'est vraiment un livre à vous procurer. Ça s'appelle « Le temps des foudres » pour vivre l'épidémie de coronavirus en résonance avec le 18e et rester aussi les pieds sur terre, la nôtre, dans notre sud-ouest, entre le Béarn et le Pays Basque, avec de temps en temps quelques incursions à la capitale dans la cour de Louis XVI. Vous êtes nominé pour le prix littéraire du Cotentin, je crois, Pascal Lebellet. On vous souhaite bonne chance.
Ben merci beaucoup, vraiment merci. Et puis je vous souhaite une bonne journée ainsi qu'à tous les auditrices et auditeurs.
Radio Présence dans le Grand Toulouse. 97.9.
Dans moins de 4 minutes, Église Actualité. Et maintenant, c'est les 4 Centrui, un groupe toulousain. Il est midi 18 tout pile.
Whatever way the same, nothing according to plan. If I could just see clear into you. The same face every day, the sirens calling away. This means so much more. The floating boat is carrying me, and I can give my story differently. The greatest aren't you.
Église Actualité, Emmanuel Pellat.
Demain, à Toulouse, le CCFD Terres Solidaires propose pour rappel son assemblée de rentrée, à l'occasion de laquelle sera présentée l'année 2020 le projet d'accueil d'un partenaire international et la présentation d'initiatives autour de l'encyclique Laudato Si. Rendez-vous demain à Toulouse à 12h à la maison diocésaine du Christ-Roi. Demain également, au départ de Pibrac, aura lieu le 12e pèlerinage Saint-Louis de France, organisé par le groupe de prière toulousain du même nom, qui, je cite, « prie pour la France et ses compatriotes dans l'esprit des apparitions mariales de 1947 à l'île Bouchard, dans le nord de la France, par rapport à ici au programme « Marche, temps de prière et de partage ». Les organisateurs notent que toutes les mesures sanitaires seront respectées. Rendez-vous demain donc à 8h30 devant l'église de Pibrac. Demain également, à Calmont, le diocèse de Rodez organise pour rappel la fête de Sainte-Émilie de Roda. Au programme conférence sur le thème « Disponible à la parole de Dieu, l'exemple de Sainte-Émilie de Roda », temps de partage et de prière. Rendez-vous demain, dès 10h, à la basilique Notre-Dame de Seignac, à Calmont. Ce dimanche 20 septembre, à Cassagne-Aber, le diocèse de Toulouse propose de venir participer à la 106e journée mondiale du migrant et du réfugié, célébré cette année autour du thème choisi par le pape, contraint de fuir comme Jésus-Christ, accueillir, protéger, promouvoir et intégrer les personnes déplacées. Pour tout renseignement, un site internet www.toulouse.catholique.fr. Enfin, lundi 21 septembre, à Toulouse, le diocèse propose un temps de prière à l'occasion du 170e anniversaire de l'ordination du vénérable Père Marie-Antoine. Au programme, temps de prière et de rencontre. Rendez-vous dès 13h à l'église Saint-Sernin à Toulouse. Pour tout renseignement, un site internet www.marieantoine.com.
Retrouvez Église Actualité sur le web en tapant www.radioprésence.com. Radio Présence aux portes du Tarn. 97.9.
L'essentiel de l'actualité avec Luc Vidal-Giraud, en attendant ce week-end bien mérité en Occitanie.
Bonjour à tous. De nouveau, au département de notre région placé en zone rouge, le Tarn et l'Aveyron rejoignent la liste des départements d'Occitanie où la circulation du virus s'accélère et est considérée comme active. L'Occitanie en compte désormais 8, ayant basculé en zone rouge. Le Tarn, l'Aveyron, le Tarn-et-Garonne, la Haute-Garonne, les Pyrénées-Orientales, l'Aude, l'Hérault et le Gard. Les critères pris en compte pour justifier un tel classement sont, outre le taux d'incidence, c'est-à-dire le nombre de cas pour 100 000 habitants, la tension hospitalière, le nombre de tests réalisés, le taux de positivité des tests et l'évolution du nombre de foyers de contamination les fameux clusters. Alors les évolutions varient d'un département à l'autre et au sein même des départements. Ainsi, en Haute-Garonne, la préfecture alerte sur une évolution défavorable des taux d'incidence, 144 pour 100 000 dans le département et 225 pour 100 000 à Toulouse. De nouvelles mesures vont être annoncées au cours de la journée par le préfet. De son côté, la préfecture du Tarn a déjà présenté ses nouvelles restrictions, avec notamment la fermeture obligatoire des bars à 23 heures, le port du masque obligatoire dans un rayon de 50 mètres autour des crèches, des écoles, des établissements scolaires, des établissements d'enseignement supérieur et des arrêts de transport en commun, et ce, de 7h à 22h. L'Ariège n'est quant à elle pas concernée par ce classement en zone rouge comme les Hautes-Pyrénées ou encore le Gers. La préfète de l'Ariège a toutefois appelé à la vigilance la population de son département. Elle a en effet été alertée par la CPAM et l'Agence régionale de santé quant à une nette hausse constatée des chiffres relatifs à la pandémie de Covid dans le département. Les Ariégeois doivent prendre conscience qu'il est indispensable de respecter les gestes barrières, de faire attention aux rassemblements, aux fêtes familiales ou encore aux événements de clubs sportifs. La Banque de France vient de dévoiler son bulletin de conjoncture économique pour le mois d'août en Occitanie. La production industrielle et les courants d'affaires des services marchands ont augmenté plus fortement qu'en juillet dans la majorité des secteurs, hormis bien sûr l'aéronautique, sans retrouver toutefois les niveaux d'avant-crise. En revanche, les professionnels du bâtiment annoncent, eux, un niveau d'activité comparable à celui de 2019. Dans l'ensemble, l'écart de performance entre la France et la région se creuse, soulignant l'ampleur de la crise frappant deux piliers de notre économie régionale, l'aéronautique et le tourisme. En septembre, l'activité devrait peu évoluer. En matière de météo, les jours se suivent et se ressemblent. Pas de précipitations depuis le belle lurette et des records de chaleur qui tombent jour après jour. Il n'a jamais fait aussi chaud à Toulouse un 17 septembre, 35 degrés hier au compteur. Le précédent record datait de 1987. Il s'agit du record de chaleur le plus tardif dans la ville rose depuis le début des mesures météo en 1947. Toulouse vient ainsi de passer 7 jours à plus de 30 degrés en plein mois de septembre. Les températures étaient également élevées dans l'ensemble du sud-ouest hier avec 35,4 degrés à Biscarrosse dans les Landes et 34,5 degrés à Agen dans le Lot-et-Garonne. Lundi, un record de chaleur avait été battu à Orthez dans les Pyrénées-Atlantiques avec 37,9 degrés. Le parquet de Toulouse bloque la reprise de BVA par Alcentra. Le parquet vient en effet d'interjeter appel de la décision du tribunal de commerce de nommer le fonds de dette anglais Alcentra comme le repreneur de BVA et de ses 8 800 salariés, dont 500 sont basés à Toulouse. Pour le procureur, l'objectif est, je cite, « d'analyser les forts enjeux économiques de ce dossier majeur afin de permettre une analyse technique approfondie ». Au-delà de cette décision juridique, sa principale conséquence est la suspension immédiate du verdict du tribunal de commerce toulousain. Par conséquent, la direction actuelle de l'entreprise reste en place et garde la main jusqu'au rendu de la chambre commerciale de la Cour d'appel de Toulouse. Son appréciation du dossier pourrait être différente. Si le tribunal de commerce de Toulouse est composé de chefs d'entreprise, la Cour d'appel regroupe, elle, des magistrats. On reste dans ce domaine judiciaire avec la condamnation hier du maire de Gaillac dans le Tarn. Patrice Gosserand écope de 10 mois d'emprisonnement avec sursis, 20 000 euros d'amende et 5 ans d'inéligibilité pour prise illégale d'intérêts et corruption passive. En annonçant sa décision, le président du tribunal a souligné le comportement inacceptable de la part d'un élu de la République dans une telle affaire. Selon lui, les pratiques du maire de Gaillac creusent le sentiment d'inégalité entre les citoyens. Conséquence de ce jugement, Patrick Gosserand va devoir démissionner de tous ses mandats, maire, vice-président d'agglomération et conseiller départemental. Vous le savez, c'est ce week-end les journées du patrimoine. Pour les célébrer, Emmanuel Macron était dans le Gers ce matin, à Condom précisément. Le chef de l'État a été accompagné entre autres de la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, et de Guillaume Poitronal, le président de la Fondation du patrimoine. Objectif de la visite, découvrir le chantier de rénovation qui s'achève à l'hôtel de Polignac. C'est l'un des tout premiers monuments historiques à avoir bénéficié du loto du patrimoine lancé en 2018. Au niveau régional, les propositions de visite pour ces journées sont multiples. Un tuyau pour faire votre choix, le site internet de France 3 Occitanie qui propose un récapitulatif exhaustif avec une carte interactive compilant toutes les manifestations département par département. Autre moyen de mesurer l'engouement de la population pour le patrimoine, le succès de l'émission « Le monument préféré des Français » diffusé ce soir par France 3 et présenté par Stéphane Bern. Il fallait choisir parmi les 14 monuments sélectionnés et qui ont été soumis à des votes. Et parmi eux figurent pour la Nouvelle-Aquitaine la Corderie royale de Rochefort en Charente-Maritime et le canal du Midi en Occitanie. En rugby, les Coupes d'Europe interrompues au printemps dernier en raison de la crise sanitaire reprennent ce week-end avec les quarts de finale. Dans la Champions Cup, le stade toulousain reçoit les Irlandais de l'Ulster dimanche à Ernest Vallon. pour le compte de la Challenge Cup. Castres se déplace chez les Anglais des Tigres de Leicester.
Merci Luc, on vous retrouve en fin d'heure pour le rappel des titres.
La météo.
Pour cet après-midi, du 27 degrés en moyenne dans notre région d'Occitanie avec le soleil pour le week-end. Demain matin, le soleil continuera de vous accompagner avec des températures plus fraîches que ce début de semaine. 13 degrés près du boulevard Gambetta à Cahors, 14 dans le Gers et à Saint-Gaudens ainsi que dans l'Aveyron. Le thermomètre affichera du 16 degrés près du bowling de Montaudran. L'après-midi, les températures doublent. Nous atteindrons même les 30 degrés dans le Tarn-et-Garonne, 29 pour Condom et dans la Haute-Garonne, 28 au Château-Fort de Lourdes. Pour dimanche après-midi, faites là aussi très attention, il fera 31 degrés en moyenne. Mettez-vous à l'ombre et buvez beaucoup d'eau. Excellent après-midi sur Présence. Le tour des diocèses avec Isabelle Honnel. Elle va dans notre partie d'Occitanie où vous nous écoutez sur le 93.3.
Partons à Montauban dans le Tarn-et-Garonne et nous avons l'honneur de retrouver ce matin Monseigneur Bernard Ginoux, l'évêque du diocèse. Bonjour Monseigneur.
Bonjour Isabelle et bonjour aux auditeurs.
Alors Monseigneur, nous sommes ensemble pour pointer du doigt avec vous les événements à surtout manquer sur aucun prétexte, sous aucun prétexte à Montauban. Quels sont-ils ?
Oh, il y a aussi quelques infos. La première info, le sanctuaire de la Miséricorde de l'Immaculée Conception est fermé pour travaux. Et il s'est rouvert à la cathédrale depuis le 15 septembre. Deuxième info, la pastorale des migrants, comme dans tous les diocèses, pour le diocèse de Montauban, le service organise une messe des peuples le dimanche 27 septembre à 11h à Notre-Dame de la Paix, suivi d'un moment fraternel, évidemment dans le respect des gestes barrières, et d'un échange avec les migrants. Ensuite, autre info, pour tout le diocèse, la catéchèse et le catéchuménat invitent évidemment les catéchistes, les animateurs de l'éveil à foi, l'aumônerie, le catéchuménat, à la matinée de rentrée, le samedi 3 octobre, de 9h à 12h, à la maison diocésaine, sur le thème « Mémorisation et transmission de la foi ». Le samedi 3 octobre également, au cinéma Le Paris, à 18h, projection débat du film « Au-delà du dialogue », avec le groupe du dialogue interreligieux, et l'association Cinéma et Spiritualité. Ce film présente des religions musulmanes qui ont adapté une spiritualité née dans l'Église, et c'est un échange important pour le dialogue. Et puis, nous avons bien sûr, le dimanche 4 octobre, la journée diocésaine de la saison de la création, à Montbeton, à 4 km de Montauban, là où le diocèse, en l'honneur de ses 700 ans, a planté en 2017 700 arbres. Et nous voyons grandir ces arbres, nous les chouchoutons, malgré la sécheresse, c'est difficile. Et donc cette journée sera autour de cette forêt mémoriale qui est en train de pousser comme lieu de rencontre, de fraternité, de joie, de paix. Donc 10h l'accueil, puis la messe que je présiderai à 10h30, le repas partagé à l'extérieur avec toujours les gestes nécessaires, puis la visite de la forêt avec les parrains qui sont là, parrains et marraines bien sûr, qui ont parrainé ces arbres. Et puis à 14h, la rencontre avec Madame le pasteur Véronique Téché-Joliès de l'Église protestante unie, qui viendra, parce que c'est une journée œcuménique, le matin elle est plus catholique, mais l'après-midi, elle viendra nous parler du thème création-écologie. Et ensuite, la conclusion à 15h pour un temps de prière œcuménique. C'est la journée du 4 octobre pour le diocèse de Montauban, pour qu'il clôture la saison de la création, vous savez, qui a commencé le 1er septembre. Voilà quelques messages que nous pouvons retenir, et noter sur nos agendas, et nous les préparons dans le diocèse.
C'est noté, Monseigneur, 700 arbres pour, en allusion à ces 700 ans, 4 octobre, à stabiloser sur vos agendas, ne serait-ce que pour venir voir Monseigneur Ginoux avec son arrosoir, arroser précautionneusement ces arbres, hein, c'est ça hein.
Et oui, Isabelle, j'ai planté, mais il faudrait maintenant arroser.
Il faut arroser. Voilà. Un grand merci, Monseigneur. Tout ça est noté. Un grand merci à vous. Lundi matin, nous partirons cette fois pour le tour des diocèses en Aveyron. Retrouvez Pascal Fournier. À bientôt, Monseigneur.
Merci. Bonne journée. Au revoir.
Dans 4 minutes, Marie-Pierre Pavlak arrive pour sa revue de presse, une émission à retrouver sur le www.radioprésence.com. Nous, nous allons écouter des mots d'amour avec Julien Clerc, je t'aime, etc. Bon appétit si vous venez de vous mettre à table.
Mon amour, je sais c'est un peu court, mais je n'ai plus que ces trois mots qui coulent de moi comme un flot. Mon amour, je sais c'est peu de choses, mais cette phrase me grise de son eau de rose. C'est comme ça, je t'aime, etc. Je t'aime, je t'aime, etc. Je sais c'est un peu lourd, mais j'ai si peur que d'illuminer mon espace tu te lasses. Mon amour, tu sais ça chante en moi comme un oiseau qui me tonitruque, il fait beau près de toi. Je t'aime, etc. Mon Dieu, qu'il passe vite, et c'est déjà le quai de gare où l'on se quitte. Ton départ, mon amour, je ne pourrais plus le dire, mais s'il te plaît, me permets-tu de te l'écrire? Et qu'un jour, on s'aime, etc. Mon amour, je sais que tu dois fuir, mais mon amour, prenons soin de nos souvenirs. N'oublie pas.
Présence à Toulouse, 97.9. La revue de presse chrétienne avec Marie-Pierre Pavlak.
Marie-Pierre, vous avez lu pour nous la presse chrétienne de la semaine. Qu'est-ce que vous en avez retenu ?
Beaucoup de violence et de bruit, mais parmi tous les fracas du monde, j'ai retenu deux termes en apparence antinomiques : patrimoine et jeunesse. Tout a commencé par un verre de coca et des gâteaux, nous dit Nanou Bouillet, historienne de l'art, dans le numéro consacré cette semaine par le magazine Le Pèlerin au patrimoine. À l'été 2005, Nanou Bouillet accueille dans l'église du Mont-de-Vensacé, dans la Meuse, une poignée d'adolescents désœuvrés. Ils nettoient, dépoussièrent et s'approprient l'église jusqu'à en devenir des guides bénévoles. Depuis lors, le projet s'est étoffé. L'historienne de l'art a mis au point et diffusé par le biais du réseau Église ouverte, une méthode pédagogique pour aider les ados à devenir des ambassadeurs du patrimoine. Dans ce même numéro du Pèlerin, vous lirez également une longue interview de Stéphane Bern, parrain du Grand Prix Patrimoine du magazine. Stéphane Bern qui vient de lancer un appel à sauver 5000 églises. Partout dans nos villages, des clochers tombés, des tuiles arrachées, des charpentes affaissées, écrit-il dans le numéro hors-série de la revue Des Deux Mondes. Et, rajoutait-il dans le Pèlerin de cette semaine, ce sont, et je le cite, « des pierres qui parlent, qui nous rappellent la nécessité de donner du sens à nos vies, de remettre l'humain au cœur ».
Et de l'humain au cœur de l'espace patrimoine mondial de l'humanité.
En pleine guerre froide, une poignée de rêveurs introduisent l'idée qu'au-delà de l'atmosphère terrestre, l'espace pourrait constituer un tel patrimoine pour l'humanité. Quelques 60 ans plus tard, après la promulgation du traité de l'espace et en pleine émergence d'acteurs privés et publics, l'idée peut paraître désuète. Pourtant, nous dit Jacques Arnould, chargé de mission pour les questions d'éthique au Centre national d'études spatiales, faire de l'espace un patrimoine commun de l'humanité est une idée à défendre. L'espace, un patrimoine à préserver ? La question est posée, et notamment celle du devenir des débris de satellites autour de la Terre. Pour Jacques Arnould, il en est de notre responsabilité, mais il faut néanmoins avancer. Nous avons besoin, conclut-il, d'un élan, d'un enthousiasme qui ne trouve leur racine que dans la fierté lucide et raisonnée pour l'œuvre accomplie par nos prédécesseurs. L'espace, patrimoine mondial de l'humanité, un article à lire dans La Croix du 15 septembre dernier.
Fierté lucide et raisonnée pour l'œuvre accomplie par nos prédécesseurs, voilà ce que nous pourrions également découvrir dans le numéro de Famille Chrétienne de ce week-end.
Hugues Lefebvre et Clément Guillaume nous amènent sur la charpente de la cathédrale Saint-Étienne de Meaux, petite sœur de la charpente de Notre-Dame de Paris, selon les mots d'Anne-Sylvie Stern-Riffet, conservatrice des monuments historiques. Entre contemplation et émerveillement, nous mettons nos pas dans ceux de milliers d'humbles charpentiers anonymes.
Et dans la croix de ce jeudi 17 septembre, on parle justement de tradition et de transmission de savoir.
Avec Nina Lefebvre, jeune tailleuse de pierre qui, à 19 ans, vient de remporter le Grand Prix Pèlerin du patrimoine. Tout a commencé au pied d'une abbaye à Beaulieu-les-Loches où elle grandit. C'était dit, Nina serait tailleuse de pierre. Une belle histoire à lire dans la croix de ce jeudi 17 septembre.
Et pendant ce temps-là, à Istanbul, le musée Église Saint-Sauveur Incora vit ses dernières heures.
Oui, patrimoine en danger, patrimoine en péril. Le 21 août dernier, après que la basilique Sainte-Sophie eut subi le même sort, le président turc Recep Tayyip Erdogan annonçait que le musée deviendrait très prochainement une mosquée. Des transformations condamnées par le patriarche grec Bartholoméos Ier. Cette décision, et je le cite, nous offense dans notre identité, notre histoire et notre culture. Des propos rapportés par notre consoeur Cécile Pierre Magnani dans La Croix de ce jeudi 17 septembre. Des propos qui confirment, et je la cite, le repli et le tournant islamo-nationaliste du pouvoir. Sainte-Sophie et Saint-Sauveur Incora, ou le sacrifice de la culture.
Pourtant, au milieu des violences et du fracas du monde, il reste encore des particules éphémères d'humanité.
À 99 ans, Edgar Morin, ni philosophe, ni sociologue, ni anthropologue, mais tout cela à la fois, est l'une de ces particules éphémères d'humanité. En prophète des temps modernes, il se confie à nos confrères du magazine La Vie de cette semaine et disserte sur ce qu'est la vie. Je crois à la vérité de l'amour et à tout ce qui unit et contre tout ce qui divise et détruit. En d'autres temps, saint Paul n'avait-il pas écrit, parole éternelle, l'amour ne passera jamais.
La revue de presse chrétienne avec Marie-Pierre Pavlak.
Votre évangile arrive dans 3 minutes. Avant ça, le temps regretté Claude Nougaro qui adorait ses pierres roses à Toulouse où vous nous écoutez sur le 97.9.
Les mots divins, les mots en vain, les mots de plus, les motus. Les mots pour rire, les mots d'amour, les maudits pour te maudire. Les mots bruissants comme des rameaux, les mots ciselés comme des émaux,
la fin des mots, la soif de mots qui disent quelque chose. Les mots chéris qui sur mes lèvres n'ont pas trouvé leur place. Les mots muets, les mots bués comme un baiser sur la glace. Les mots bouclés, clés de l'espace. Les mots oiseaux qui laissent des traces. Les mots qui tuent, les mots qui muent, les mots tissant l'émotion. Les mots pâlis, les mots salis, les mots de prédilection. Les mots qui te caressent comme des mains. Les mots divins, les mots de vin, les premiers mots, la fin.
Dans le Lauragais, 97.9.
L'Évangile.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, il arriva que Jésus, passant à travers villes et villages, proclamait et annonçait la bonne nouvelle du règne de Dieu. Les 12 l'accompagnaient ainsi que des femmes qui avaient été guéries de maladies et d'esprits mauvais. Marie, appelée Madeleine, de laquelle étaient sortis 7 démons, Jeanne, femme de Cusas, intendant d'Hérode, Suzanne et beaucoup d'autres qui les servaient en prenant sur leurs ressources. Acclamons la parole de Dieu.
Mes frères et sœurs, mes chers pèlerins de Lourdes, le chapitre 8 de l'évangile de saint Luc nous parle de l'activité missionnaire de Jésus. L'activité missionnaire de Jésus. Jésus qui, comme nous dit l'évangile, passe à travers villes et villages annonçant la bonne nouvelle. Aujourd'hui, Jésus passe parmi nous, dans nos villes, dans nos villages, annonçant la bonne nouvelle. Mais voilà que Luc nous dit qu'il ne passait pas tout seul. Il passait accompagné par les 12, les 12 apôtres, ainsi que des femmes qui avaient été guéries de maladies et d'esprits mauvais. C'est très intéressant. Il n'y a pas seulement que les hommes, il y a les femmes et les hommes. Les 12 sont des hommes, et puis les femmes. Et puis des femmes, je dirais, qui nous donnent déjà un exemple, puisqu'elles ont été guéries de maladies et des esprits mauvais. Je pense parfois en tant qu'homme que parfois je suis un peu plus réticent à me laisser guérir par Jésus. Et puis l'évangéliste, n'est-ce pas, nous parle de Marie, appelée Madeleine, de laquelle étaient sortis 7 démons. Jeanne, femme de Cusas, intendant d'Hérode, Suzanne et beaucoup d'autres. Cela signifie une petite révolution dans le temps de Jésus, puisque les femmes n'avaient pas le droit de suivre les prédicateurs ou les rabbis, comme on les appelait à l'époque, qui parlaient de Dieu. Elles n'avaient pas le droit, elles n'avaient même pas le droit d'écouter l'enseignement des rabbis. Et voilà que ces femmes, non seulement écoutent Jésus, mais suivent Jésus et sont associées à la mission d'annonce de l'Évangile. Parfois, je me dis dans nos paroisses, si les femmes n'étaient pas là, oh, elles ont l'art d'annoncer l'Évangile. Elles ont l'art d'entrer dans les familles, de parler aux femmes, aux hommes, aux enfants, les catéchistes. Elles sont très, très bien associées à Jésus, à l'Église, dans sa mission d'annonce de l'Évangile. Donc, voyez, Jésus marque une petite révolution déjà. Par ailleurs, l'Évangile met bien sûr l'accent aujourd'hui, l'Évangile d'aujourd'hui met bien l'accent sur un aspect de cette mission, l'annonce du royaume, l'annonce de la bonne nouvelle. Mais est-ce que les femmes ont fait ça seulement? Il y a des choses formidables que nous trouvons dans l'Évangile. Entre la personne de Jésus, qui se sont passés entre la personne de Jésus et les femmes. Par exemple, un des dialogues le plus profond, le plus théologique, qui nous parle de cette présence de Dieu au milieu de ce monde, Jésus l'a tenu avec une femme, la Samaritaine. Et à un moment donné, Jésus dit au que les femmes ne sont pas faites seulement pour être dans la cuisine. Vous vous rappelez dans la rencontre avec Marthe et Marie. Mais Marie, elle garde la meilleure part, elle écoutait la parole de Jésus, ce qui est une révolution pour le temps de Jésus. Et puis, elles ont été les premières témoins du Christ ressuscité. Marie-Madeleine, de laquelle était sortie cette démon, hein. Et c'est elle qui va dire à Pierre, à ses disciples, c'est-à-dire au pape et aux évêques, il est ressuscité, il est vivant. Et puis bien sûr, le Fils de Dieu, le Sauveur, comme nous dira saint Paul, il est né d'une femme. Ici à Lourdes, mes frères et sœurs, Si ces sanctuaires existent, et ils n'existent pas seulement ici, dans les Pyrénées, en tant que grâce, ils existent partout dans le monde entier. Même si aujourd'hui il n'y a pas beaucoup de pèlerins, comme nous avons l'habitude de le dire ici dans le sanctuaire, il y a des millions de personnes qui vivent de la grâce de Lourdes. Et ce sanctuaire est le fruit de la rencontre entre deux femmes, Marie, la mère de Dieu, et Bernadette. Et Bernadette, elle a accompli un travail extraordinaire, formidable. Elle aurait pu garder ces paroles de Marie pour elle. Elle a fait, comme nous dit l'Évangile d'aujourd'hui, elle a annoncé ce que Marie, qui est toujours relative à son fils, elle a annoncé avec une fidélité et persévérance bouleversante ce qu'elle a vu, ce qu'elle a entendu, ce qu'elle a touché dans ce rocher de Massabielle. Une femme qui ne savait ni lire ni écrire, qui était dans la misère et qui a été toujours malade, grâce à une femme. Et c'est évident que dans l'annonce de l'Évangile, la femme apporte quelque chose de plus, je dirais, que nous, les hommes, nous n'apportons pas. Ce n'est pas un manque, c'est Dieu qui a voulu les choses comme ça, que je résumerai dans cette phrase du pape François, déjà à la fin de son document, son encyclique, par exemple, exhortation apostolique, qui s'appelle la joie de l'Évangile, en parlant de Marie, mais cela il faut l'appliquer à toutes les femmes qui annoncent l'Évangile, il nous dira ceci. En contemplant la personne de Marie, et je dirais de Bernadette, et je dirais aussi de chacune des femmes qui annoncent l'Évangile, de chacune des mamans qui annoncent l'Évangile à leurs enfants, ou de les épouses qui annoncent l'Évangile à leur mari, ou de ces femmes qui sont dans nos paroisses, engagées dans la vie paroissiale, ou dans nos communautés. Le pape François dira ceci, en contemplant la personne de Marie, nous prenons conscience de la force révolutionnaire, il appliquait bien le mot, la force révolutionnaire de la tendresse et de l'affection. Dans l'annonce de l'Évangile, par leur délicatesse, les femmes apportent beaucoup de tendresse et beaucoup d'affection. Et je vous assure, en tant que prêtre, que pour l'annonce de l'Évangile, il nous faut une dose abondante, débordante, de tendresse et d'affection.
Présence dans la vallée de la Garonne, 97.9.
Le rappel des titres avec Luc Vidal-Giraud en Occitanie.
Deux nouveaux départements de notre région placés en zone rouge, le Tarn et l'Aveyron, rejoignent la liste des départements d'Occitanie où la circulation du virus s'accélère et est considérée comme active. L'Occitanie en compte désormais 8, ayant basculé dans cette zone rouge, le Tarn, l'Aveyron, le Tarn-et-Garonne, la Haute-Garonne, les Pyrénées-Orientales, l'Aude, l'Hérault et le Gard. Les évolutions varient d'un département à l'autre et au sein même des départements. En Haute-Garonne, la préfecture alerte sur une évolution défavorable des taux d'incidence, 144 pour 100 000 et 225 pour 100 000 à Toulouse. De nouvelles mesures vont être annoncées au cours de la journée par le préfet. La Banque de France vient de dévoiler son bulletin de conjoncture économique pour le mois d'août. En Occitanie, la production industrielle et les courants d'affaires des services marchands ont augmenté plus fortement qu'en juillet dans la majorité des secteurs, hormis l'aéronautique, toutefois sans retrouver les niveaux d'avant-crise. En matière de météo, les jours se suivent et se ressemblent. Pas de précipitations depuis belle lurette et des records de chaleur qui tombent jour après jour. Il n'a jamais fait aussi chaud à Toulouse un 17 septembre. 35 degrés hier au compteur. Le précédent record datait de 1987. Le parquet de Toulouse bloque la reprise de BVA par Alcentra. Le parquet vient en effet d'interjeter appel à la décision du tribunal de commerce de nommer le fonds de dette anglais Alcentra comme le repreneur de BVA et de ses 1800 salariés dont 500 sont basés à Toulouse. On reste dans le domaine judiciaire avec la condamnation hier du maire de Gaillac dans le Tarn. Patrice Gosseran écope de 10 mois d'emprisonnement avec sursis, 20 000 euros d'amende et 5 ans d'inéligibilité pour prise illégale d'intérêt et corruption passive. C'est ce week-end les journées du patrimoine. Pour les célébrer, Emmanuel Macron était dans le Gers ce matin. Objectif de la visite, découvrir le chantier de rénovation qui s'achève à l'hôtel de Polignac, l'un des tout premiers monuments historiques à avoir bénéficié du loto du patrimoine lancé en 2018. Et puis au niveau régional, les propositions de visite pour ces journées sont multiples. Un tuyau pour faire son choix, eh bien le site internet de France 3 Occitanie propose un récapitulatif exhaustif avec une carte interactive compilant toutes les manifestations département par département. Et puis en rugby, les Coupes d'Europe interrompues au printemps dernier en raison de la crise sanitaire reprennent ce week-end avec les quarts de finale. Dans la Champions Cup, le stade toulousain reçoit les Irlandais de l'Ulster. C'est dimanche à Ernest Vallon. Pour le compte de la Challenge Cup, Castres se déplace chez les Anglais des Tigres de Leicester.
Allez, un rapide coup d'œil sur votre météo pour cet après-midi. Vous aurez une moyenne de 30 degrés. Demain matin, des risques d'orage. 19 à Cahors et dans le Gers, 17 pour Lourdes. De rares averses pour Toulouse et Montauban, 21 degrés. L'après-midi, le ciel va se couvrir pour tout le monde, comme par exemple 26 degrés à Figeac dans le Tarn-et-Garonne, la Haute-Garonne et le Gers. Pour dimanche après-midi, une moyenne de 23 degrés où vous aurez de rares averses. Passez un excellent week-end. Je vous laisse avec votre journal de Radio Vatican. En attendant, portez-vous bien.
Présence à Aspé 94.1.
Radio Vatican.
Le journal.
Le journal.